Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Croire d'hier à demain,
produite par l'Institut de pastoral des Dominicains pour Radio Ville-Marie. Au microphone, c'est Francine Robert.
J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une entrevue avec Michel Gourgues, un Dominicain. C'est l'un des professeurs invités les plus anciens et les plus fidèles de l'Institut de pastoral. Michel Gourgues est un spécialiste en études bibliques, surtout du Nouveau Testament. Il est professeur de Nouveau Testament au Collège dominicain d'Ottawa et il est aussi professeur titulaire à l'École biblique de Jérusalem. Je lui ai demandé de nous parler d'un évangile qu'il connaît vraiment à fond, l'évangile selon Saint Jean, et Michel va aborder plus particulièrement l'expérience du croire dans l'évangile selon Jean. Michel Gourgues, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à cette émission. C'est un grand plaisir de vous accueillir, Michel.
Vous allez nous parler d'un évangile que vous aimez beaucoup, l'évangile selon Saint Jean, et plus particulièrement sous l'angle du croire ou du thème de la foi. Ça m'a étonné que vous me proposiez ce thème-là en particulier, Michel Gourgues, parce que habituellement, on pense à l'évangile de Jean comme l'évangile de l'amour. Vous savez, les belles phrases, aimez-vous les uns les autres comme
oui,
je vous aime.
Mais oui. En effet, c'est courant hein, d'entendre dire que l'évangile de Jean, c'est l'évangile de l'amour. Et ce qu'on veut dire par là, c'est l'évangile de l'amour mutuel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais quand on y regarde de près, on a l'impression que c'est l'effet d'un mirage, en ce sens que on lit l'évangile à la lumière de la première épître de Jean, qui, elle, effectivement, ne cesse pas de répéter « Petits enfants, aimons-nous les uns les autres », etc. Mm-hmm. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », qu'il n'aime pas son frère et tout. Comme la première épître de Jean, à beaucoup d'égards, ressemble à l'évangile, on est porté à lire l'évangile dans la même ligne et en faire l'évangile de l'amour. Seulement, quand on y regarde de près, si on entend par amour l'amour mutuel, hein,
oui.
On se rend compte qu'on a vite fait le tour et que les doigts d'une seule main suffisent pour compter les passages où intervient cette idée, ce thème de l'amour mutuel, de l'amour des disciples entre eux. Ces quatre passages, il y en a quatre, sont tous dans la deuxième partie de l'Évangile. Au chapitre 13, tout de suite après le lavement des pieds, en 13:34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est à ce signe qu'on vous reconnaîtra.
Oui. »
Puis, on a deux chapitres plus loin, dans le discours d'adieu, c'est dans l'allégorie de la vigne. « Je suis la vigne, mon père est le vigneron » et tout. Puis là, on a à deux reprises, au verset 12 puis au verset 17, de nouveau l'énoncé du commandement de l'amour. Mais si on regarde de plus près encore, on se rend compte que 15:12 et 15:17 répètent la même chose et que leur formulation est presque mot à mot celle de 13:34.
Oui.
Finalement, on pourrait dire « il n'y a que deux passages
voilà. ».
Un des deux étant répété trois fois. Alors, c'est très frappant.
En effet.
Oui, oui. Et le vocabulaire de l'amour dans ces passages, le verbe « aimer
oui. »,
« agapao »,« agapan », revient quatre fois, puis « agapé », »,« amour », revient une fois, donc cinq.
Mm-hmm.
Si on compare avec le vocabulaire de la foi, alors là, imaginez-vous, on a près de 100 passages.
Ah oui.
Je dis la foi, faudrait pas dire, c'est ce que vous avez dit au début qui est juste, c'est croire, hein, c'est le thème du croire. Jean n'emploie jamais le substantif, hein, le mot pistis, la foi. C'est toujours croire pour lui. Pisteo,
oui. Hein,
c'est comme si ça nous mettait tout de suite face à une perspective particulière. Il n'y a que des gens qui croient dans l'évangile de Jean.
Oui.
Il n'y a pas de foi abstraite.
Il n'y a pas de définition
non plus,
contenu de foi.
Non. C'est-à-dire, il y a le verbe croire, des gens qui croient que Jésus est le Christ, le Fils
oui.
de Dieu et tout.
Oui.
Mais l'attention n'est pas sur une définition abstraite de la foi. Hein?
Mm-hmm.
C'est très frappant.
Je trouve ça intéressant, Michel, parce que ça nous invite à mettre l'accent sur le fait que c'est une adhésion. Ça tourne le regard vers la personne qui doit faire une option, qui doit prendre une décision. Et ça, c'est un aspect que je trouve très actuel dans l'expérience croyante.
Jean serait content.
À quelque
c'est
chose,
très joannique.
Voilà.
Alors, ce qu'on disait, donc, c'est ça que croire revient 98 fois.
98 fois, c'est
et
incroyable.
Et d'un bout à l'autre de l'Évangile. Hein, c'est dans les deux parties de l'Évangile. Et si on compare avec les synoptiques, par exemple, on voit que 98, c'est trois fois plus que les trois autres mis ensemble, Matthieu, Marc et Luc,
où
ça revient 34 fois chez les trois mis ensemble. Alors, c'est impressionnant.
C'est énorme. C'est ça. Ce choix du verbe, je trouve, croire, qui est tourné vers la personne.
Voilà.
Comme vous dites, il n'y a que des gens croyants ou non dans Jean. Ben, je dis des gens croyants ou non. Il y a un certain dualisme, hein, des fois, qu'on a cette image dans l'Évangile de Jean, c'est tout ou rien, alors tu crois ou tu crois pas, comme dans le prologue, hein, ceux qui ont cru vont être sauvés, vont devenir enfants de Dieu, et puis il y a les autres.
Voilà. C'est une chose que, de façon générale, pas seulement en rapport avec la foi, mais sous cet angle-là aussi, c'est une chose qu'on présente souvent comme une caractéristique de l'Évangile de Jean. Hein, ces oppositions, ce dualisme, c'est ça qu'on veut dire. La lumière, les ténèbres, croire, ne pas croire, etc.
Suivre, ne pas suivre,
etc. Hein, il y a tellement... On aurait l'impression que chez Jean, les couleurs pastel n'existent pas. C'est blanc ou c'est noir, et il n'y a pas de demi-teinte chez lui. Et donc, on croit... ou on ne croit pas. Si on croit, on a accès à la vie.
Oui.
Si on ne croit pas, on n'a pas accès à la vie.
Alors, c'est croire ou meurt, presque.
Mais en réalité, quand on regarde, c'est vrai que souvent, il donne cette impression. Et l'exemple que vous avez donné est très juste, hein, dans le prologue. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Donc, on croirait que c'est un jugement catégorique, c'est le non-accueil absolu.
Oui.
Mais la phrase suivante, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Oui.
C'est comme s'il se corrigeait lui-même.
Oui.
Alors, en ce qui concerne la foi, le croire, on constate la même chose, qu'en réalité, il y a des nuances chez lui. Parce qu'à la fin de la première partie de l'Évangile, au chapitre 12, là, il fait comme une espèce de bilan. Et il dit, voilà, face à Jésus, face à son enseignement, face à ses signes en particulier, les réactions ont été les suivantes. Certains n'ont pas cru. Certains ont cru, mais n'osaient pas témoigner. Hein? Ils craignaient d'être exclus de la synagogue. Certains ont cru et ont témoigné, etc. Donc, on voit, il y a quand même des nuances. Hein? Il y a des cheminements dont on pourrait dire que dans les catégories de gens, ils sont inadéquats. Mais quand même, il les connaît, ces cheminements.
Ce qui est inadéquat, c'est la manière de croire?
C'est le fait, par exemple, que la foi n'ose pas se prononcer. Certains, même parmi les notables, crurent en lui, mais n'osaient pas se prononcer parce qu'ils craignaient d'être exclus de la synagogue. Il est très sévère pour eux. Ces gens-là préfèrent la gloire qui vient des hommes à la gloire qui vient de Dieu. Mais il connaît donc des nuances. Hein? Il y a une foi qui est imparfaite et tout. Ou encore à Jérusalem, au chapitre 2e, hein? Le premier séjour de Jésus à Jérusalem, il dit que pendant qu'il était à Jérusalem, beaucoup crurent en lui, à la vue des signes qu'il faisait.
Oui.
Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux. Vous voyez, la foi qui est inadéquate parce qu'elle n'est appuyée que sur les signes. Pour lui, c'est insatisfaisant. Enfin, il y a quelque chose, c'est une foi boiteuse.
Ce que vous venez de dire me rappelle Nicodème, hein, au chapitre 3.
Très juste.
Qui vient trouver Jésus en disant, nous savons que tu viens de Dieu à cause des signes que tu as faits.
Voilà. Oui. Et Nicodème serait une parfaite illustration d'une foi qui n'est pas encore la foi telle que Jean la conçoit comme la foi idéale. La première fois qu'il vient voir Jésus, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Il pose ses questions, Jésus répond, il y a un début de dialogue, tout à coup, ça tourne au soliloque. Où est passé Nicodème?
Et il était venu de nuit.
Voilà.
Alors déjà un peu honteux de trouver Jésus sympathique, pourrait-on dire.
Voilà.
Mais bon, c'est des choses que des gens peuvent comprendre encore aujourd'hui. C'est pas toujours jojo les réactions que ça provoque lorsqu'on s'affiche croyant dans certains milieux. Hein.
Alors que la Samaritaine, elle, qui vient en plein jour, qui a tout contre elle, Nicodème est l'élite de l'élite. La crème de la crème du judaïsme, tandis qu'elle, elle est la marge de la marge.
Oui.
Elle croit et elle va témoigner, tandis que Nicodème, on ne sait pas.
Oui.
Mais on revoit Nicodème. On le revoit au chapitre 7, puis on le revoit au chapitre 19. Et donc, il y a une foi en cheminement. Jean la connaît, la foi en cheminement. Hein? C'est pas la foi tout d'un coup comme ça qui arrive, on croit ou on ne croit pas. Non, il y a chez Nicodème un cheminement. Et on a l'impression, sans qu'ils le disent jamais expressément, que le cheminement de Nicodème finit par aboutir. Chapitre 19e, à la fin de l'Évangile, alors que les autres disent que Joseph d'Arimathie est allé réclamer le corps de Jésus, Jean lui précise, il dit qu'il n'était pas tout seul. Il y avait avec lui Nicodème. Puis il fait le lien, donc...
Il rappelle que c'est
voilà,
ça même.
C'est un cheminement, c'est celui oui. qui était venu de nuit trouver Jésus précédemment. Puis il dit que ce brave Nicodème avait sous les bras 100 livres de parfum, ce qui fait 75 livres dans nos mesures. Avec ça, il aurait pu embaumer toute la ville de Jérusalem. Oui. Alors le lecteur, la lectrice de Jean se dit, s'il ne croit pas, en tout cas, il a une grande admiration pour Jésus.
En effet, oui.
Et donc, il dit, son cheminement a donc abouti quelque part.
Oui, d'autant plus que là, ça le compromet assez publiquement.
Exactement.
Et c'est plus grave de se compromettre publiquement en faveur de celui qui a été condamné et tué.
Voilà, voilà. Comme il s'était compromis au chapitre 7, Nicodème, quand le grand prêtre, hein, le grand conseil, comme dit Jean, est réuni, puis on décide de faire arrêter Jésus, de prendre les moyens. Et Nicodème a le courage, cette fois-là, de se compromettre devant le grand prêtre. Je dis que c'est pas juste. Notre loi ne permet pas de condamner quelqu'un sans l'avoir d'abord déjà entendu. Et il se fait injurier, ignorant. Et tu dis, tu verras bien que...
Oui.
Donc, le lecteur dit, il y a un cheminement chez Nicodème.
Ouais. Et donc, ce personnage, il est géré en termes narratifs, il est géré positivement. Il n'y a pas un jugement.
Exactement.
Alors, si je reviens à cette idée qu'on a d'un dualisme chez Jean, c'est tout bon ou tout mauvais, l'exemple que vous venez de développer pour nous montre bien que...
Voilà. Il y a quand même des attestations de cheminement de foi.
Hein? Oui, c'est pas et tout mis de... en scène très soigneusement dans l'Évangile, je dirais. C'est très intéressant. Alors, Michel, les exemples que vous venez de nous donner montrent bien, que le thème du croire est majeur dans cet Évangile. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où Jean le signale assez directement?
Ah oui. Pensons à la finale de l'Évangile, hein? Jean, au chapitre 20, verset 30-31. Jésus a encore accompli sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez. Que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie. Donc, il exprime son objectif très clairement. Ceci a été écrit pour que vous croyiez. Et le prologue qui dit « Au commencement était l'amour », non. Au commencement était la parole, la parole qui appelle la foi.
Oui, pour les habitués de l'Évangile, habituellement on traduit ici par le Verbe.
Le Verbe.
J'aime bien que vous disiez la parole, puisque c'est bien ce mot qui est là
logos,
et qui est partout ailleurs traduit par parole.
C'est ça. Alors donc, au début et à la fin de l'Évangile déjà, on a comme l'indice de l'importance que Jean accorde au croire. Hein. Tout ceci a été écrit pour que vous croyiez. La question qui se pose, c'est, est-ce que cet évangile a été écrit pour affermir des croyants dans la foi? Donc, ce serait une perspective qu'on pourrait dire pastorale, hein? Amener des gens qui croient déjà à grandir dans la foi,
pour
que vous continuiez à croire.
Approfondir, croire autrement.
Voilà.
OK.
Ou bien, si c'est une perspective missionnaire, pour amener à croire des gens qui ne connaissent pas le Christ.
Oui.
C'est très difficile, à partir de ce seul passage, de décider. Mais ce qu'on observe dans l'Évangile, il y a des cheminements qui sont des cheminements vers la foi. Hein? Des gens qui ne connaissent pas Jésus au point de départ et qui deviennent croyants, la Samaritaine, l'aveugle-né, ils ne le connaissent pas. Tandis qu'il y a des gens, au contraire, qui le connaissent au point de départ, et qui deviennent plus croyants, ou en tout cas qui ont des cheminements non pas vers la foi, mais dans la foi. Pensons à Nicodème, dont nous parlions il y a un moment. Pensons à Marthe, au chapitre 11e. Donc, ce sont des gens qui grandissent dans la foi.
Donc, on a les deux.
Les deux sont là.
Et pourquoi devons-nous à tout prix choisir,
Est-ce qu'il faut choisir? Moi, je pense que la perspective missionnaire, comme la perspective pastorale est présente chez Jean.
Oui. Et nous, en tant que lecteurs déjà croyants, on fait certainement notre profit de le relire pour devenir de meilleurs croyants, pour mieux comprendre ce à quoi l'on croit.
Absolument. Hein, c'est l'évangile le plus, entre guillemets, évolué du point de vue théologique, hein, le plus fini, le plus... On dit toujours qu'il est venu en dernier et tout, et on sent que cet évangile reflète une longue maturation de foi, une longue méditation du mystère du Christ. Pour revenir à votre question, vous me demandez, est-ce qu'il y a des passages où il manifeste ce souci, cet intérêt pour la foi?
Ou on pourrait la formuler autrement. Est-ce qu'il y a des passages où on voit pointer le nez de Jean lui-même, du narrateur, que soit le personnage derrière?
Nous avons parlé tout à l'heure du chapitre 12, hein, où il fait son bilan.
Oui, il y a là un bilan sur, on pourrait dire, la mission publique de Jésus.
Il s'intéresse aux réactions de ceux, de celles qui ont été témoins de la mission. Et il le fait en termes de foi et de non-foi. Donc, ça manifeste, pour lui, c'est son intérêt. Mais il y aurait d'autres aussi. Hein. Par exemple, à tout moment, Jean ouvre des parenthèses dans son récit, hein, des parenthèses explicatives. Par exemple, il explique ce terme veut dire ceci. Mais parfois, il introduit une parenthèse qui manifeste justement son intérêt dans la ligne de la foi. Par exemple... quand Jésus entre à Jérusalem et qu'il chasse les vendeurs au chapitre 2, Jean dit, sur le moment, cette parole, ils ne la comprirent pas. Détruisez ce temple, en 3 jours, je la relève. Mais quand il eut été glorifié, alors ils comprirent et ils crurent.
On parle là des proches de Jésus. Voilà. On pourrait se dire, ils sont déjà des croyants puisqu'ils ont accepté de le suivre.
Voilà.
Mais c'est un croire qui a encore du chemin à faire.
Exactement, parce qu'il a dit au chapitre 2, à la fin du récit de Cana, ses disciples crurent en lui. Faudrait traduire, ils commencèrent à croire en lui.
Absolument.
Parce que leur cheminement à eux aussi, l'évangile va en témoigner dans la suite.
Et ça aussi, c'est un exemple, donc, d'une intervention. Ah. C'est le narrateur qui dit, ses disciples crurent en lui.
On a la même chose au chapitre 12, quand Jésus entre à Jérusalem. Même chose. Sur le moment, ils ne comprirent pas ce qui arrivait, mais quand il eut été glorifié, alors ils comprirent, ils crurent. Donc, c'est des interventions dans la ligne du croix. Ailleurs encore, il ouvre des parenthèses. Dans la foule, certains crurent en lui, d'autres non, etc. Puis là, il poursuit son récit après. Donc, c'est toujours ce souci qu'il avait.
Très présent, finalement. Et c'est vrai aussi, à moins forte intensité, mais dans les autres évangiles, et dans de très nombreux livres bibliques, d'ailleurs.
Absolument.
Et je le signale parce que les gens sont happés dans le récit. Hein. La plupart du temps, le lecteur est pris... on joue le jeu, on entre là-dedans comme dans un film, et on oublie qu'il y a un narrateur en train de nous conduire par la main.
Voilà.
Alors, c'est intéressant de s'en rappeler pour être attentif à ces signaux du narrateur qui sont toujours là pour nous, sont là pour les lecteurs.
C'est ça. Et Jean, ça déborderait notre thème, mais c'est un maître là-dedans.
Ah oui.
Pour accrocher le lecteur, pour intriguer le lecteur, pensons simplement au thème de l'heure de Jésus. Il dit au début, mon heure n'est pas venue. Mais le lecteur dit, de quoi parle-t-il? C'est la première fois que le terme intervient. Quand chez Jean un thème est important, il ne le dévoile jamais d'un seul coup. Il va donner par miette. Il fait manger son lecteur à la petite cuillère.
Oui.
Il lui en donne un peu plus. Dans le cas de l'heure, chapitre 2, il revient au chapitre 7. Ils voulurent l'arrêter, mettre la main sur lui, mais son heure n'était pas venue. Donc le lecteur dit, ça doit être sa mort alors. Puisqu'ils veulent l'arrêter. Chapitre 8, répète la même chose. Ah ben, le lecteur dit, très bien, je suis pas sûr, j'ai compris, c'est l'heure de sa mort.
Mm-hmm.
On arrive au chapitre 12, la voici l'heure, enfin. 3 fois, il a dit, l'heure n'est pas venue. Elle est venue, l'heure, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le lecteur dit, de quoi parle-t-il? Mm-hmm. Les indices qu'il m'a donnés jusqu'à maintenant me laissaient croire que c'était l'heure de sa mort. 2 fois, il a répété. Puis là, il semble dire que c'est la glorification. Et c'est la première fois qu'il emploie le terme glorification.
Oui.
Alors, glorification, chez les autres, c'est toujours la résurrection. Alors, le lecteur se dit, est-ce que ça pourrait être la mort et la résurrection? On arrive au chapitre 13, Il donne enfin le dévoilement, sachant que son heure était venue de passer de ce monde par sa mort à son Père par la résurrection. Mais c'est un dévoilement par bribes. Hein?
Ouais. Et c'est l'introduction au lavement des pieds, c'est la phrase que vous venez de dire, qui est tout sauf glorifiante comme scène. C'est l'abaissement par excellence.
C'est le propre de Jean, hein, que la glorification de Jésus est en deux moments. C'est sur la croix et dans la gloire que j'avais auprès de toi avant que soit le monde. Parfois, il parle de l'élévation. Hein? Alors, pour la foi, donc, si nous revenons, vous me demandiez les indices. Donc, on a dit, il y a le bilan qu'il fait à la fin du chapitre 12, ses parenthèses, ses interventions qui manifestent qu'il regarde les choses sous l'angle de du croire ou du non-croire. Et la finale, en Jean 20, 30, 31, c'est « Ceci a été écrit pour que vous croyiez, hein, que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. »
Michel, vous nous avez montré que lorsqu'on peut repérer les interventions du narrateur, les interventions directes dans son texte, ce sont des passages où il manifeste clairement son intérêt pour l'expérience du croire. Est-ce que cet intérêt-là, on peut l'observer ou le repérer aussi dans les récits de miracles? Je dis récits de miracles parce que c'est comme ça qu'habituellement on appelle ça, mais pas Jean, je pense, n'est-ce pas?
Chez Jean, c'est toujours des signes, hein? Des signes que nous disions tout à l'heure. Ces signes ont été rapportés pour que vous croyiez. Et on voit que lui, en effet, ce qui l'intéresse, c'est moins la guérison ou la multiplication des pains ou les différents types de signes de Jésus en eux-mêmes, c'est moins l'événement en lui-même extraordinaire que les réactions qu'il est censé engendrer, qu'il est censé produire. On voit ça. Par exemple, prenons l'aveugle-né, hein, Jean 9. Bien, le récit de l'aveugle-né couvre tout le chapitre 9, 41 versets. Mm-hmm. Alors, si on regarde la description du signe elle-même, les versets 6 et 7 suffiraient. Deux versets. Il lui toucha les yeux avec de la boue, il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », il y alla et il vit.
Ce qu'on appelle un récit de miracle, là, c'est terminé.
Oui, ah, ça se terminerait. Alors que ce qui suit rapporte quatre types de réactions. Hein, face à ce signe-là. Et c'est très intéressant. On voit bien que ce qui l'intéresse plus que le signe lui-même, c'est les réactions au signe, c'est la foi ou la non-foi, ou les nuances encore.
Hein. Oui.
Si on regarde cet exemple de l'aveugle-né, l'aveugle est guéri. Première réaction, la réaction du voisinage. Ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier et qui disent... Regardons ça, c'est curieux, ça doit être un autre. Le petit aveugle dit « Non, non, c'est moi, c'est moi. » Puis les gens disent « Mais qui t'a guéri? » Il ne sait presque rien. C'est celui qu'on nomme Jésus. Où est-il? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, première réaction, une réaction en superficie. Le signe n'aboutit à rien. Les gens ne posent même pas la question de l'identité de Jésus. Où est-il celui-là? Une pure curiosité. On ne détestera pas le voir comme on veut voir un magicien ou quelque chose. Ces gens, donc, ne croient pas parce qu'ils ne s'interrogent même pas. Mm-hmm. Qui est Jésus? Ils ne s'interrogent pas. Simplement une question de curiosité. Où est-il? Deuxième réaction, on voit bien, là, les pharisiens font venir l'aveugle. Ils se questionnent et ils posent la bonne question. « Dis-nous comment ça s'est passé, etc. » Et puis, ils leur racontent. Puis là, ils réagissent devant l'aveugle. Certains d'entre eux disent « C'est un pécheur, parce qu'il a fait ça le jour du sabbat. » Et les autres répondent « Écoutez, on n'a jamais entendu dire qu'un pécheur a ouvert les yeux d'un aveugle. » Et c'est là qu'ils disent au petit aveugle « Toi, tu as bien ta petite idée sur lui. » Et il dit « Ah, d'après moi, c'est un prophète. » Donc, eux, voyez, ils posent la question. Puis, certains d'entre eux seraient déjà sur le chemin du croire.
Oui.
Mais après ça, là, ils continuent leur enquête et tout.
Avant que vous arriviez à l'étape suivante, déjà, on voit que celui que vous appelez le petit aveugle, je trouve ça sympathique,
lui-même commence à faire du chemin à cause de ces questions-là.
Exactement.
Il avait rien à dire sur Jésus trois lignes avant, mais là, je pense que c'est un prophète.
Voilà. Donc, il chemine. Oui. Il chemine parce que il est mis à la question.
Oui. Hein?
C'est parce que les autres l'interrogent. Sinon, on a l'impression qu'il serait resté à sa perception première.
Ouais, mais ça aussi, si vous me permettez, Michel, une parenthèse, ça me semble beaucoup la situation des croyants d'aujourd'hui.
Mm-hmm.
Depuis qu'on est en situation de pluralisme et non de chrétienté, ou donc de croire automatique, on est obligé, interpellé à aller plus loin.
Voilà,
et dans un sens, ça nous fait progresser.
Je crois. Et dans ce récit de l'aveugle, moi j'irais encore dans votre sens, on a des réactions qui se retrouvent sans doute de tous les temps, mais que nous retrouvons dans la culture qui est la nôtre. Il y a ceux du voisinage qui ne s'interrogent même pas. L'indifférence. On ne pose pas la question. Deuxième, ceux qui posent la question, mais qui ne croient pas et qui, pour une raison ou une autre, deviennent agressifs. Parce que quand ils font revenir après avoir interrogé les parents, hein, « Rends grâce à Dieu, on a éclairci ton affaire. L'homme qui t'a guéri, c'est un péché. » Ah ben non.
Là, leur idée est faite.
Voilà.
Ouais.
Ils ne veulent pas croire.
Parce que ça contredit leur héritage religieux. Là, il y a le problème de la guérison.
Ce serait trop exigeant pour eux, on a le sentiment. Parce que quand ils disent à l'aveugle, « Ben, dis-nous donc encore. » Ah non. Ils disent, « Je vous l'ai dit déjà une fois, je ne recommence pas. Pourquoi êtes-vous si intéressé? Voudriez-vous devenir ses disciples?
Oh, » Ah, quelle belle ironie.
Petite affrontée.
Oui.
Nous sommes les disciples de Moïse. Toi, tu es son disciple. Donc, on voit leur option est faite. Ils ne veulent pas croire. Et ils deviennent agressifs face à...
Alors, il y a eu un cheminement dans le non-croire. Tantôt, vous nous parliez du cheminement dans le croire.
Voilà.
Mais cet évangile construit des cheminements dans le refus qui devient de plus en plus
fort. Parce que l'aveugle dit, non, un pécheur, comment? Tout à l'heure, je vous ai entendu discuter, et vous-même disiez, on n'a jamais entendu dire qu'un pécheur a ouvert les yeux d'un aveugle. Comment Dieu agirait-il à travers un pécheur? Donc, on voit deux cheminements qui se croisent.
Ah,
l'aveugle qui progresse vers la foi, puis eux autres qui progressent vers la non-foi et qui se croisent. Le motif, c'est un pécheur, apparaît suffisant à certains, à l'aveugle, non. Troisième, il y a les parents. On les fait venir et puis on dit « c'est votre fils, hein, c'est notre fils, c'est certain ». Est-ce que c'est vrai qu'il est né aveugle? Oui, c'est certain. Mais qui l'a guéri? Ah, demandez-lui.
Il est assez grand pour répondre.
Exactement. Ouais, ce qui laisse passer qu'il est plutôt jeune. Alors là, Jean dit « ces gens-là craignaient d'être exclus de la synagogue. Ils n'osaient pas dire que c'était Jésus parce que on avait décrété que si quelqu'un croyait en Jésus… il serait exclu de la synagogue.
Oui. Faisons une parenthèse, Michel. Ça nous parle bien de la date de la rédaction finale. Oui.
C'est un clin d'œil du rédacteur.
Oui.
Les parents de l'aveugle, ils sont comme ces croyants d'aujourd'hui qui n'osent pas faire de vagues. Ils n'osent pas se déclarer disciples de Jésus.
C'est ça. Parce qu'il n'était pas question au temps de Jésus lui-même, Jésus historique, d'exclure quelqu'un de la synagogue.
On n'a aucune attestation dans ce sens-là.
C'est vraiment la décision par rapport aux Juifs chrétiens, finalement. Donc,
la fin du premier siècle, quand la synagogue a pris les moyens pour exclure les chrétiens.
Pour d'ailleurs protéger le judaïsme en risque d'effondrement et la destruction du temple et tout ça.
Voilà. Alors, les voisins ne se questionnent même pas, ils ne croient pas. Donc, les pharisiens se questionnent et ne croient pas. Les parents croient, c'est donc qu'ils se sont questionnés, mais ils ne témoignent pas. Finalement, l'aveugle, lui, il a tout ça. Hein? On le questionne, il croit et il va témoigner.
Oui, et il croit progressivement, c'est-à-dire ce qu'il dit de Jésus
est
de plus en plus
fort. Voilà. Oui. On a le sentiment que dans ce récit de signes, hein, la guérison de l'aveugle-né, donc on a dit... La densité, elle est toute sur les réactions plutôt que sur le signe lui-même, la description du signe. Ensuite, on a l'impression que Jean, subtilement, il a présenté comme une typologie des réactions face à Jésus. Et la preuve, c'est qu'au chapitre 12, ce que nous disions tout à l'heure, dans son bilan final, ce sont exactement ces réactions qu'il décrit. Les parents de l'aveugle-né, l'aveugle lui-même, les pharisiens, les gens du voisinage représentent autant de réactions typiques à Jésus. Et votre question de tout à l'heure qui était tellement pertinente, hein, est-ce que ça n'a pas quelque chose à nous dire à des croyants dans le type de culture où nous avons à vivre notre foi.
Ouais.
C'est évident. C'est comme si Jean disait, as-tu à vivre ta foi dans une culture où il existe une indifférence à l'égard de la foi de Jésus? On ne pose pas la question.
Ouais,
ça, c'est les voisins.
Ouais.
As-tu à vivre ta foi dans une culture où, pour une raison ou une autre, des gens sont devenus agressifs à l'égard de la foi? Non, comme on exclut l'aveugle, petit affronté, votant,
oui.
etc. As-tu à vivre ta foi dans une culture où les gens n'osent pas se déclarer croyants, les parents de l'aveugle? Alors, le récit dit, bien, tiens-toi debout. Tiens-toi debout comme l'aveugle et tu vas être surpris des résultats. Tu vas grandir dans la foi. Ça va t'amener toi-même à prendre conscience du trésor que tu portes et puis à t'affermir dans la foi.
Ah oui, tout à fait.
Sinon, il y a plein de gens qui sont comme l'aveugle, des croyants en principe, et le Christ est entré dans leur vie, comme quand Jésus a guéri l'aveugle-né, mais qui en réalité ne le connaissent pratiquement pas. Qui est-il celui qui t'a guéri? Un certain Jésus, au début, il ne le sait pas. Mais c'est parce que les gens le talonnent. Ils disent, toi, tu as bien ta petite idée sur lui. Puis après, on le provoque. Celui qui t'a guéri, c'est un pécheur. Ah, là, il grandit. On le
Absolument.
Voit qu'il grandit.
Oui.
Et à la fin, crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il? Je le suis. Et là, il se prosterne devant Jésus. Il est enfin parvenu
Tout
au terme
fait.
De son cheminement.
Michel Gourgue, dans les récits de signes, donc chez Jean, les dialogues qui suivent le signe sont beaucoup plus longs que le récit lui-même pour exprimer les réactions. On l'a vu dans le récit de l'aveugle-né. Est-ce que tous les récits de miracles sont comme ça chez Jean?
Dans d'autres cas, c'est le contraire. Le signe, il vient à la fin, au chapitre 11. Lazare dort. Alors, ça vient tout à la fin du récit. Ça tiendrait dans un verset, pratiquement.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il a raconté avant? Un cheminement dans la foi ou vers la foi, surtout les Juifs qui croient en lui à la vue de ce signe qu'il va faire. Mais Marthe, Marie, les disciples de Jésus qui grandissent dans la foi. Donc, c'est toujours la même chose. Il s'intéresse davantage à ce qu'il décrit avant le signe ou après le signe, aux réactions, au cheminement des gens. Dans la foi ou vers la foi.
Il y a des trajectoires au fond.
Oui.
Mon Dieu, qu'on est loin de ce cliché de dualisme que je signalais au tout début de l'émission.
Je crois. Il y a toutes les nuances.
Vous croyez?
Oui. Par exemple, Marthe. Ah, Marthe.
Oui, quelle femme.
Jean 11. Alors, elle, on a l'impression qu'elle est parvenue à la foi parfaite. Non? Les deux sœurs viennent toutes les deux en pleurant. Puis si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Un reproche à peine voilé parce qu'on te l'a fait dire il y a 4 jours, puis t'as pas bougé. Et maintenant, il est mort. Jésus dit, Marthe, ton frère ressuscitera. En jouant sur les mots, comme souvent dans Jean, il veut dire, je vais le ressusciter, je vais lui rendre la vie. Je sais bien qu'il va ressusciter comme tous nous autres au dernier jour.
Oui, les Juifs croyaient déjà au relèvement des morts.
Alors Jésus lui dit, Marthe, « Je suis la résurrection et la vie, crois-tu? » Puis là, elle fait la plus belle profession de foi. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir dans le monde. » Donc, elle ne peut pas aller plus loin au plan des formules, puisqu'à la fin de l'Évangile, c'est « Ces signes ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » Donc, Marthe dit « C'est parfait. » Non, elle ne peut pas aller plus loin. Mais on se rend compte que, malgré tout, elle a les formules, mais elle n'a pas tout saisi. Non, elle a les mots, mais elle n'a pas la réalité.
Ben, ça nous arrive, Michel, ça, d'avoir les bons mots de la foi et de pas tout comprendre ce qu'on dit.
Exactement, parce que quand on arrive au tombeau, qu'est-ce qu'elle dit, Sainte Marthe, priez pour nous?
Oui, il sent déjà, elle est un peu inquiète de ce qui va se passer.
Fais pas ça, ça va être disgracieux, il sent déjà et tout. Donc, elle n'a pas saisi. Elle n'a pas parfaitement saisi.
Il y a une ouverture très grande à quelque chose d'inouï, d'inattendu.
Voilà.
Et en même temps, elle est tirée par en arrière avec, le réalisme du quotidien.
Voilà.
Du concret, la résistance, la réalité. Ce sont des gens très proches de nous, finalement.
Oui, oui. Il y a de quoi s'identifier à travers les personnages de genre.
Vous avez constamment parlé, Michel, de signes, de récits de signes. Le signe est raconté en deux phrases. Vous n'employez jamais le mot miracle. Pourquoi?
Non, parce que Jean ne l'emploie pas. D'ailleurs, le mot miracle, on pourrait dire, est inconnu de tout le Nouveau Testament. C'est nous qui traduisons. Il faut bien traduire de quelque manière, avec les mots à notre disposition, dans nos langues à nous. Mais miracle, ce n'est pas l'idéal, parce qu'un miracle, quand on est passé à travers la raison critique du 18e, 19e siècle, un miracle, c'est un accroc aux lois de la nature. Ça ne correspond pas du tout à la perspective des évangiles. Matthieu, Marc et Luc parlent de dynamis, dynamé, c'est-à-dire un acte de puissance.
Ouais,
comment traduire ça en français?
Un dynamisme.
Voilà.
Ou dynamique.
Une intervention puissante de Dieu, force de Dieu intervient. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait traduire. Oui. Jean, lui, il ne donne pas lieu à cette ambiguïté pour nous, puisque jamais il ne parle de dynamis, il parle toujours de signe. Donc, il montre encore l'intérêt pour la foi. Un signe, c'est ce qui précisément renvoie à au-delà de lui-même. C'est à la foi de percevoir à quoi le signe renvoie.
Ouais. Donc, voir le signe et voir autre chose.
Voilà.
Ça me rappelle, Michel, le chapitre 6, c'est le récit des pains donné aux foules.
Quand
la foule le trouve le lendemain, parce qu'ils le cherchent, ils ont été grandement impressionnés, c'est certain.
Voilà.
Et alors nous, on se dit, ils l'ont vu, le miracle. Et Jésus leur dit, vous me cherchez pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé plein votre ventre.
Exactement.
Et donc, on se dit, mais ils l'ont vu, le signe, pourtant, mais ils n'ont pas vu que c'était un signe.
La pleine signification.
Alors, les gens restent au premier degré, pourrait-on dire.
Voilà. Et ceci me met sur une piste, pour peut-être terminer, l'importance que Jean accorde aux croix. C'est un très bon exemple que vous donnez. Le chapitre 6, on a le récit. Là, on peut faire des comparaisons, parce que ce récit, il est aussi chez Marc, et au chapitre 6 aussi chez Marc, c'est d'autant plus facile à retenir, et chez Matthieu et chez Luc. Et avec eux, ça s'arrête là. Tandis que Jean, lui, 10 versets pour la description du signe, ensuite 30 versets, un long discours qui donne précisément la signification pour la foi. Donc, on voit bien, c'est toujours sa préoccupation. Le signe lui-même, 10, 3 fois plus pour le sens qu'a ce signe. Je suis le pain de vie, etc.
Voilà, donc, il y a un pain réel.
Voilà.
Si on reste au pain, on reste au miracle.
Voilà.
Truc impressionnant, disons.
C'est extraordinaire.
Et non, c'est pas de ce pain-là qu'il s'agit. Et là, au fond, ce qu'on a avec ce discours, c'est toute notre théologie sur l'Eucharistie qu'on trouve là.
À la fin.
Alors que Jean n'a pas de récit de la dernière scène et de l'institution eucharistique.
Exactement.
Donc, vous diriez, Jean préfère expliquer, raconter moins, expliquer plus?
Voilà. Puis on a la même chose au chapitre 5. La guérison du paralytique à Jérusalem. On décrit le signe, le dialogue de Jésus avec lui, « Veux-tu guérir? » etc. Puis la guérison. Puis ensuite, même chose, une trentaine de versets qui donnent le sens. Qu'est-ce que ça révèle du mystère de Jésus lui-même? Hein? « Je rends la vie aux morts, comme le Père relève les morts et leur donne la vie, ainsi a-t-il donné aux fils. » Donc on voit, ce qui l'intéresse, c'est la foi.
Oui, et qu'on comprenne au deuxième niveau, je dirais, c'est ça, de jamais en rester à l'événement lui-même.
Voilà.
Et c'est pourquoi il nous abreuve, à plus soif des fois, je trouve, d'explications. Ça va peut-être vous paraître bizarre, Michel, comme question, mais est-ce que vous pensez pas que ça peut être, parce que lui, les ayant vus, ces actes impressionnants, disons-le, ce qu'on appelle des récits de miracles, c'est impressionnant. Il les a vus, cet auteur, qui pouvait être déjà dans les disciples avec Jésus, et n'a rien vu d'autre, justement, que quelque chose d'impressionnant, et que c'est seulement après, à la lumière de la résurrection, qu'il a vu qu'il y avait autre chose à voir, si on veut.
Je pense que on a des indices dans l'Évangile, en tout cas, qui pourraient laisser penser ça. Ces passages dont nous parlions tout à l'heure, où il dit explicitement « Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas, mais quand il eut été glorifié, alors ils comprirent. » Parfois, quand Jésus dit explicitement à Pierre « Laisse-moi faire, plus tard tu comprendras. » Donc, le disciple, en effet, hein, a dû être de ceux-là. Ce disciple, il est dit que il vit et il crut, mais à la fin.
Oui, et on ne sait pas trop en quoi, d'ailleurs, il croit, sinon que Jésus mort n'est plus au tombeau.
C'est un cheminement, c'est la foi en cheminement.
Michel Gourgues, vous me disiez avant l'émission que le croire chez Jean, ça entraîne, ça appelle le témoignage.
Ça, c'est la foi idéale pour Jean. Celle qui non seulement, vous voyez, est l'adhésion d'une personne, la Samaritaine, les autres, mais qui débouche sur le témoignage. On croit et on va le dire comme une espèce de dynamisme spontané.
Comme cette Samaritaine, on l'imagine courir.
Ça, c'est le type parfait de la croyance.
Oui, et c'est fantastique parce que c'est une mission réussie en plus. Voilà, elle amène.
Voilà, venez voir quelqu'un qui m'a dit « Ne serait-il pas le Messie ?» Et elle amène les Samaritains à Jésus, et puis ils disent « Maintenant, on n'a plus besoin de ton témoignage, nous l'avons entendu nous-mêmes et tout. » Ça, c'est la foi idéale, la foi qui débouche sur le témoignage. Ou à la fin, Marie-Madeleine, qui finit enfin par reconnaître Jésus, hein,
dans le
jardin, « Va dire à mes frères, j'ai vu le Seigneur, dit Marie. » Ça, c'est la foi qui débouche sur le témoignage, dont témoigne la Samaritaine, dont témoigne Marie-Madeleine. Parfois, c'est assez curieux. Ben, nous avons parlé tout à l'heure de l'aveugle-né.
Oui.
Là, on dirait, c'est la dynamique inverse. Ce n'est pas la foi, l'option de foi qui est faite et qui va se dire, en quelque sorte, aux autres. Hein. C'est plutôt le témoignage, d'une certaine manière, qui débouche sur la foi. C'est la nécessité de témoigner
de l'expérience qu'il a vécue
qui l'amène l'aveugle à croire. La nécessité de se compromettre, comme vous disiez tout à l'heure, qui amène l'aveugle à grandir vers la foi et à la fin à devenir croyant. Alors Nicodème, on pourrait penser que c'est le même cas. Nicodème doit se compromettre à deux reprises et on a l'impression qu'à la fin, il est parvenu à croire.
Ouais. C'est intéressant, donc c'est pas linéaire.
Voilà. Ah. Et l'Évangile lui-même se voit comme un témoignage. C'est ce disciple qui témoigne, et nous savons que son témoignage est vrai, dit la deuxième finale, Jean 21-24, pour que vous croyiez vous aussi. C'est un témoignage. Et donc, lui, il témoigne de la foi idéale. Le croyant, la croyante, qui dit ce qu'elle a perçu pour en amener d'autres à croire à Jésus.
Et dans cette ligne-là, est-ce que l'artifice narratif de ce qu'on appelle le disciple bien-aimé servirait...
Moi, j'en suis venu à cette conviction-là. Comme vous savez, on discute à perte de vue depuis le 2e siècle pour identifier ce fameux disciple que Jésus aimait. Et au 2e siècle déjà, saint Irénée dit, bien, ça doit être Jean, fils de Zébédée. Parce que divers indices, dans les synoptiques, il est toujours avec Pierre, etc. Puis, dans Jean, il est à quelques reprises avec Pierre. Donc, on dit, ce doit être Jean, fils de Zébédée. Mais en réalité, on ne le sait pas. Puis, les exégètes aujourd'hui, certains disent, non, ce n'est pas Jean, puis d'autres disent oui. Mais moi, je dis, c'est une fausse question. Cessons de poser cette question. S'il s'est caché, et tellement bien caché que, deux millénaires après, on discute toujours, c'est au nom d'une théologie, d'après moi. Cette conviction que, pour lui, le témoin idéal, c'est celui qui conduit à Jésus et qui se retire. Ce qui compte, ce n'est pas le témoin d'une certaine manière, c'est le témoignage qui doit engendrer la vie.
Voilà, c'est le doigt qui montre ce qu'il y a à voir.
Voilà.
Et donc, le doigt n'est pas important.
Exactement, exactement. Et on voit ça, Jean-Baptiste, qui ne s'appelle jamais Jean-Baptiste dans Jean. C'est Jean le témoin, toujours. Jean dit, « Moi, j'étais comme l'ami de l'époux. Maintenant, mon rôle est joué. Vous avez l'époux, il faut que lui grandisse, que moi je diminue. Ouais. Jean conduit à Jésus, il se retire.
Fin du chapitre 3, je pense.
Voilà. Ouais. Au chapitre 12, André et Philippe conduisent les Grecs à Jésus, ils se retirent. La finale de l'Évangile. Tout ceci a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ et que vous ayez la vie. Vous l'avez découvert, laissez-moi, qui je suis, cherchez si vous, si vous pouvez.
Ouais.
Donc, ce disciple que Jésus aimait, c'est celui qui est le témoin de ça. Hein? Il conduit au Christ, puis il se retire. Donc, d'après moi, c'est voulu comme ça.
Ouais.
C'est au nom d'une certaine conception du témoin.
Qui disparaît derrière celui dont
voilà,
il témoigne.
Voilà.
On pourrait conclure, Michel Gourgues, on a parlé de croire comme thème dans Jean, mais croire à quoi?
Ah, ça c'est intéressant aussi, parce que on pourrait faire une nuance chez les trois autres. On pourrait dire la foi, c'est croire que Dieu est intervenu en Jésus. Hein? Le règne de Dieu s'est approché. Mais ce règne de Dieu, il vient à travers la prédication, l'activité, puis ultimement la mort et la résurrection de Jésus. Donc Dieu intervient en Jésus. Dieu est au premier plan, tandis que dans Jean, la nuance, ça serait croire que Jésus intervient au nom de Dieu. Au premier plan, c'est lui.
C'est Jésus
c'est lui.
Lui-même.
Au commencement était la parole.
D'accord.
La parole s'est faite chair, mais la parole était auprès de Dieu et il était Dieu. Qui me voit, voit le Père. Qui entend ma parole, entend les paroles de celui qui m'a envoyé, etc. Donc, au premier plan, c'est Jésus, c'est le Christ, mais inséparable de celui qui l'a envoyé.
Oui, qui fait les œuvres du Père,
voilà.
Qui dit ce qu'il a entendu auprès
voilà.
du Père.
Voilà.
Donc, c'est toujours Jésus et Dieu dans les quatre évangiles, le rapport entre Jésus et Dieu, mais ce que vous dites, c'est que chez Jean, l'accent est sur Jésus lui-même,
voilà.
À travers qui on voit Dieu.
Voilà, voilà. Hein, tous ces titres qui sont donnés à Jésus, qui ne sont pas chez les autres, il est, comme chez les autres, le Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, ça va. Mais après ça, tous ces titres, à travers les symboles, je suis l'agneau, je suis le pain, je
la
suis
lumière,
la lumière, je suis
la porte.
Ah, vous voyez, c'est tous ces titres manifestent une attention christologique et de ce que les exégètes dans leur jargon appellent la haute christologie, c'est-à-dire une méditation sur le mystère du Christ qui a, on sent derrière ça, une longue contemplation du mystère qui se dit dans cet évangile.
Tout à fait. Et donc, croire, pour Jean, c'est adhérer, je dirais, à cette personne du Christ en qui on voit Dieu, qui est transparence de Dieu. Voilà. Je comprends pourquoi il n'y a pas de récit de transfiguration dans l'Évangile de Jean,
parce que j'ai
toujours l'impression que l'Évangile au complet transpire la gloire de Dieu, je dirais.
Donc, il n'y a pas
besoin d'un récit en particulier,
voilà.
qu'on appelle, c'est ça, la christologie haute.
C'est ça.
Ben, Michel, on pourrait dire encore tellement sur, d'une part, ce thème du croire qui est beaucoup plus complexe qu'on le pense, d'une part. D'autre part, sur l'Évangile de Jean lui-même, qui présente toutes sortes d'aspects absolument fascinants, par exemple les nombreux symboles, l'ironie, le double sens. C'est magnifique comme évangile.
Cet évangile-là est différent des autres. Quand on entend, on dit ça, ça ne peut être que Jean.
Dans un ouvrage dont je vais donner d'ailleurs les coordonnées, vous avez un passage magnifique sur Jésus, lumière du monde, et comment on passe du matin au soir. J'ai aimé beaucoup. Donc, je donne la référence. C'est un livre qui a été publié en 2011 chez Mediapol qui s'appelle « En esprit et en vérité », qui est, bon, pour une première moitié, une introduction à l'Évangile de Jean,
c'est
beaucoup,
ça.
Et dans une deuxième partie, beaucoup sur le thème de l'esprit, devenir des adorateurs de Dieu en esprit
et en vérité.
Quelle belle expression. Michel Gourgues, un immense merci. Ça a été très éclairant sur cet Évangile, après tout, assez complexe et vraiment original. Merci beaucoup, Michel.
Merci à vous. Au revoir.
grand merci à Michel Gourgues, professeur de Nouveau Testament, qui vraiment nous donne envie de relire ce livre magnifique qu'est l'Évangile selon saint Jean. C'est Francine Robert au microphone. Madame, monsieur, merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie et je vous souhaite une excellente journée à l'antenne de Radio Ville-Marie.